Chapitre 26. Vera n'en revenait pas. Sophie avait publié son livre 4 mois avant que Romy ne disparaisse. Dubitative, la psychiatre relut l'article, l'effleura des doigts. Il s'agissait bien de papier journal et les coups de ciseaux étaient encore visibles sur le pourtour. Elle resta là, sans voix, ses yeux parcourant l'article comme pour y dénicher une explication.
« Votre cerveau de psy aimerait rationaliser tout ça, » fit Sophie. « Mais je vous garantis qu'il n'y arrivera pas. J'ai vu Romy se faire enlever avant que ça ne se produise. Pas son visage précis, bien sûr, plutôt des traits caractéristiques. C'était comme un vieux souvenir qui remonte à la surface, à la fois flou et très clair. C'est cette vision qui m'a fait démarrer l'écriture de mon roman. Alors certes, il y a des petites différences, elle joue notamment du piano et non du violon, mais c'est elle. » Elle reprit son classeur avant de poursuivre. « J'ai découvert l'existence de cette affaire cet automne, alors que j'étais en train de faire des recherches sur Internet pour mon prochain bouquin. J'ai eu un vrai choc, vous vous en doutez. J'avais la preuve irréfutable que je n'étais pas cinglée. »
Vera se dirigea vers le coin cuisine, son verre vide à la main, et se versa une nouvelle rasade de vodka. Elle en but la moitié en une gorgée. Ce que Sophie racontait était tout simplement impossible. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre. Elle se mit à déambuler, concentrée. Tous les événements avaient une cause. Peut-être fallait-il juste inverser le point de vue. Peut-être n'était-ce pas le livre qui avait été écrit avant l'article, mais l'article qui avait été rédigé après le livre.
Le kidnappeur aurait pu s'inspirer de votre œuvre, déclara Vera. J'ai déjà entendu ce type d'histoire. Les films, les récits qui donnent des idées à des criminels et les poussent à commettre des atrocités.
Sophie eut un rire moqueur.
Comme si je n'y avais pas pensé. Mais on parle d'un bouquin qui s'est vendu à moins de 500 exemplaires. Enfin, admettons. Monsieur X, kidnappeur en puissance, le lit, se dit « Tiens, je vais enlever une gamine qui se prénomme Romy et qui sortira de son cours de musique. Il faudra aussi qu'elle ait un tatouage sur le mollet gauche et qu'elle passe par un parc pour rentrer chez elle. Facile, il en trouve une qui colle parfaitement, à part l'instrument, mais ça fera l'affaire. »
Elle secoua la tête.
« Vous voyez bien que votre hypothèse ne tient pas la route. Mes prédictions ne sont pas exactes à 100%, mais elles sont justes, c'est évident. »
Force était de reconnaître qu'elle avait raison. Comme en prestidigitation, il y avait un truc. Or, pour le moment, Vera ne voyait pas lequel.
Ça signifierait que tout ce que vous avez couché sur le papier dont la fille venue de l'ombre s'est produit, au moins dans les grandes lignes, demanda-t-elle. Non, je ne crois pas. Comme pour toutes mes prédictions, seul le début m'est apparu comme un flash. Romy, le parc, la camionnette qu'il a enlevée. A priori, le lieu de détention est réel aussi. La cave avec un tas d'instruments de torture, l'équipement sadomaso, le tout sous une grosse bâtisse où vit le tortionnaire. Pour ces éléments, je décrivais seulement ce que je voyais dans ma tête. Pour le reste, j'ai dû tout créer. Et ça m'a vraiment pris le chou. Pour avoir des idées, j'ai lu des tonnes de romans policiers.
Vous savez ce qu'est devenu Romy? En vrai, je veux dire.
J'ai fait quelques recherches sur Internet. Malheureusement, l'enquête semble au point mort.
Comment se termine le livre? Le visage de Sophie se ferma.
La séquestration se déroule sur des années. Des années de brimades, de souffrances psychologiques, de jeux de domination cruels. Le kidnappeur éprouve à la fois un amour et une haine incommensurable envers Romy. Mais pour connaître la fin, il faudra lire jusqu'au bout.
Elle lorgna vers le jeu d'échecs, s'arrêta à proximité de la radio et décolla avec précaution la photo de la petite fille blonde qui habillait la façade en métal. La fixa avec une tristesse infinie dans le regard. Elle chuchota ensuite quelque chose et Vera crut percevoir des syllabes qui lui serrèrent le cœur. Elle se précipita et lui arracha le cliché des mains.
« Qu'est-ce que vous avez dit ?»
La femme haussa les épaules.
« Rien d'important. »
Elle s'apprêtait à s'éloigner, mais Vera lui attrapa le bras.
« Vous avez marmonné quelque chose, je vous ai entendu. Je suis quasiment certaine que vous avez prononcé le prénom de ma fille. Émilie. »
« Vous vous trompez. Je n'ai rien marmonné du tout. »
« Dites-moi ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes ici ? En quoi toute cette histoire me concerne ?»
Alors que Vera perdait le contrôle de ses nerfs, sa visiteuse, elle, se détacha de sa poigne et s'écarta doucement. Elle alla fouiller dans son sac, en sortit une boîte de sardines à l'huile.
« Vous permettez que j'ouvre ma conserve et que je m'installe dans un coin ? J'ai aussi un duvet. Je sais me faire discrète comme une souris, je vous embêterai pas. Pour être honnête, je ne tiens plus debout et je me vois mal refaire tout le chemin jusqu'à la ville ce soir. D'autant que, même si j'atteignais le hameau, la route doit être gelée et je me sens incapable de passer la nuit dans ma voiture ou dans l'ancienne boulangerie. J'ai besoin de manger un bout et de dormir. »
Vera était empêtrée dans une toile dont elle ne pouvait s'extirper. Chasser cette femme de chez elle revenait à la tuer. La forcer à parler pourrait faire dégénérer la situation. Elle ne disposait en fait que d'une possibilité. Attendre que le jour se lève et que la météo se calme. Elle réfléchit cependant à la manière dont elle réussirait à rappeler André sans que l'autre entende leur conversation. « D'accord, lâcha-t-elle finalement. Mais à une condition, que vous preniez la chambre. »«
Hors de question. Déjà que vous m'accueillez... Non, vraiment, je ne peux pas accepter. »«
Avec toute la marche que vous avez faite, il vous faut une bonne nuit de repos. Moi, je dormirai dans le fauteuil. Je le fais assez souvent, de toute façon, avec l'un de ses livres en guise de compagnon. »
Un sourire illumina le visage de Sophie, le premier que Vera voyait depuis son arrivée.
« Si vous insistez. »
Puis, dans la foulée, elle piocha un ouvre-boîte dans son sac et batailla avec sa conserve.
« Mettez-vous à table, » proposa Vera. « Si vous voulez, j'ai aussi de la soupe et quelques croûtons à l'ail. »«
Non, non, merci, ça va aller. »
Elle se mit à dévorer ses sardines à l'aide d'une fourchette en plastique.
« Alors, dites-moi, comment on devient psy ? »
demanda-t-elle entre deux bouchées.
« Ce qui vous a motivé à explorer les cerveaux détraqués ? Ça me turlupine depuis bien longtemps maintenant. »
Vera n'avait pas envie d'évoquer son intimité avec une ancienne patiente dont elle ne connaissait en définitive plus grand-chose. Elle n'aspirait qu'à garder ses distances. Moins elle en dévoilerait, mieux ce serait.
« J'ai suivi des études pour. Ça aurait pu être médecine, mais je préférais l'esprit à la chair. Je n'ai jamais été très, comment dire, hémoglobine. »
« Où ça, les études ?»
Elle se trouva prise au dépourvu. Elle aurait voulu répondre du tac au tac, mais ça lui fut impossible. Elle commença alors à sonder sa mémoire. L'information lui sembla bloquée juste aux portes de sa conscience, inaccessible.
« Je... Pardonnez-moi, mais j'ai comme un trou. Désolé. »
Sophie frotta ses lèvres huileuses avec le dos de sa main.
« Rassurez-vous, ça m'arrive tout le temps, surtout quand j'écris. Des noms de personnages que j'ai notés 100 fois et qui disparaissent soudain de ma tête. Je suis obligée d'aller les rechercher dans les pages précédentes. Sans doute un des effets pervers de la solitude. Certains souvenirs ne sont plus ravivés par les contacts extérieurs, les conversations, et on finit par oublier. »
Elle piqua une autre sardine avec sa fourchette et la fit glisser dans sa bouche grande ouverte.
« Et est-ce que vous croyez qu'un psy pourrait se soigner lui-même ? C'est le genre de question qui m'obnubile. Est-ce que les dentistes vont chez le dentiste ? Les médecins chez le médecin ? Et donc les psys chez le psy ?
Non. Un psy ne peut pas être son propre thérapeute, car un cerveau qui dysfonctionne est capable de se persuader que tout va bien. La schizophrénie, la paranoïa en sont des exemples types.
Vous citez encore ces maladies. Vous me croyez donc toujours schizophrène ?
Excusez-moi, mais il commence à se faire tard. Je vais me préparer à manger.
Ah, les rituels.
Les rituels, oui. C'est ainsi qu'on comble ses journées et qu'on survit à l'isolement. Vous ne souhaitez toujours pas me dire comment vous vous appelez réellement ? Ça ne me revient plus non plus. »
La femme se dirigea vers l'évier, vida l'huile qui stagnait encore dans la boîte et jeta cette dernière à la poubelle. Elle balaya ensuite la pièce du regard.
« Les toilettes ?»«
Dans le cabanon dehors, » répliqua Vera. « C'est une épreuve d'y aller. Mais quand on n'a pas le choix... »«
On n'a pas le choix. »
Sophie renfila son blouson, se chaussa, prit sa lampe et sortit. Vera hésita une seconde, puis se précipita vers son sac qu'elle fouilla sommairement. Une gourde, des conserves, quelques vêtements, l'ouvre-boîte, un couteau à lame rétractable. Elle ne trouva pas de portefeuille. Sophie devait certainement l'avoir sur elle. Mais il y avait une grosse enveloppe marron tout au fond. Un rapide coup d'œil par la fenêtre lui permit d'apercevoir la lumière dans le cabanon. Elle disposait d'un peu de temps encore. Elle sortit l'enveloppe, écarta le rabat en craft et découvrit un gros paquet de feuilles à l'intérieur. Sur la première d'entre elles, un titre et un nom. Les recluses Sophie Henrichs. Il s'agissait d'un manuscrit sur lequel sa visiteuse était vraisemblablement en train de travailler, et qu'elle a apporté ici avec elle, songea Vera. Pourquoi s'alourdir ainsi? Parce qu'elle éprouvait le besoin d'écrire tous les jours, n'importe où, afin de garder le contact avec son histoire? Ou cela cachait-il autre chose? Les recluses. Comme elles deux, cette nuit, bloquées par la tempête. Elle frissonna à cette pensée. Ça ne pouvait évidemment être qu'une banale coïncidence. Sur la page d'après, une citation. « Vie aujourd'hui comme si c'était le dernier jour » d'Agatha Christie. Elle était tirée de 10 petits nègres. Ensuite, le roman rédigé à la main commençait. La route était interminable, une longue, longue percée dans un univers de végétation hostile où chaque pin au tronc noir, aux branches plombées par la neige, ressemblait à son voisin, si bien que j'avais la sensation de ne pas avancer. Le pire était sans doute le froid, cette coulée de glace pareille à des coups de poignard dans le ventre. Un froid que vous pouviez même ressentir dans la racine de vos dents si vous aviez le malheur de respirer par la bouche. Un froid à rendre fou. Mais je persévérais, je progressais sans sourciller, malgré la douleur. Je voulais fuir le monstre, alors je suivais les repères gravés sur l'écorce. Il me guiderait vers ce chalet enfoui dans les bois, là où jamais le monstre ne songerait à venir me chercher. Du moins, je l'espérais sincèrement, car je le savais sur mes traces et jusqu'à présent, où que je me cache, il m'avait toujours retrouvé. C'était à la vue de... Vera releva la tête au moment où un rayon lumineux traversa la fenêtre. Son cœur partit dans les tours. Vite, elle remit les feuilles dans l'enveloppe, l'enveloppe dans le sac. Elle posait à peine ce dernier contre le mur que la porte s'ouvrait, l'haleine blanche de la tempête s'invitant au passage dans la pièce. Sophie dut lutter pour refermer derrière elle.
« Je vais prier pour ne pas avoir envie de faire pipi cette nuit »
clama-t-elle en ôtant ses chaussures.
« J'ai bien cru que mes fesses allaient rester collées à la cuvette. »
Vera demeurait silencieuse, pétrifiée par ce qu'elle venait de lire. Cette femme avait a priori imaginé ses premières lignes des semaines auparavant. Alors pourquoi avait-elle le sentiment que le début retranscrivait à la perfection ce que Sophie Henrichs avait dû éprouver en s'aventurant jusqu'au chalet? Le froid, le marquage sur les troncs, la forêt, tout était vrai. Vous avez eu une prédiction me concernant? Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'arriver? Avait demandé Vera plus tôt dans la soirée. L'autre avait répondu par l'affirmative. La voix d'André résonna de nouveau au creux de son oreille.
Un conseil d'ami? Fais attention à ta dame.
Sophie plaqua son front contre la vitre, comme pour mieux voir dehors.
Dites, j'ai aperçu des traces de pas tout autour de votre chalet. C'est vous?
Comment ça, des traces de pas? La romancière retourna vers la porte, faisant signe à Vera d'approcher. Puis elle entrebâilla juste assez le battant pour lui permettre de constater que des empreintes profondes et pas encore complètement recouvertes cernaient l'habitation. Vera observa leur taille, très grande, avec des sillons en forme de zigzag, assurément celle d'un homme. Elle observa ensuite les chaussures de Sophie. Bien sûr, la pointure ne correspondait pas. Après quoi elle se rendit à la fenêtre opposée, se pencha à l'extérieur et remarqua des piétinements au pied du mur. Quelqu'un avait été là récemment. Elle tira alors le rideau, se précipita vers la porte et fit claquer le verrou dans un frisson. Qui pouvait bien rôder ici?
Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, résuma Vera. Ce matin, je me suis aussi rendu compte qu'on avait dégagé la neige de la plaque d'immatriculation de ma voiture. Je pensais que vous y étiez pour quelque chose.
Sophie secoua la tête. Elle avait retrouvé son air grave, et ses yeux trahissaient une vraie peur.
« C'est qu'il est déjà là. Il fallait bien que ça arrive.
Qui ?»«
Le monstre. De quel monstre parlez-vous »
Elle haussa les épaules, prit son sac et se dirigea vers la chambre. Juste avant d'entrer, elle fit volte-face.
« Il ne peut pas jouer le cavalier en B5. Ce n'est pas possible. »
Vera fronça les sourcils.
« Pardon ?»«
L'autre. Le vieil ours, il a dit tout à l'heure qu'il jouait cavalier en B5. Ça me semble compliqué étant donné qu'il n'y a plus un seul cavalier sur l'échiquier. Vous savez quoi? J'ai horreur qu'on me prenne pour une conne.
Sans ajouter un mot, elle se retourna et referma la porte derrière elle.